Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 46e rendez-vous technique RHFPT proposé par le blog NoRH.com. Je suis Pascal No, le créateur du site, et aujourd'hui je vais vous parler d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 24 octobre 2019, numéro 18-DA-011-65, qui indique qu'une dépression consécutive à une réaffectation n'est pas forcément imputable au service. En l'espèce, une attachée principale, directrice de pôle au centre de gestion, se déclare victime d'un accident le 11 février 2015 que le président refuse de reconnaître imputable au service le 22 mai. En raison de ces difficultés depuis de nombreux mois, le président et la directrice générale lui font part le 11 février de la souffrance exprimée par certains de ses agents lors d'une enquête administrative les semaines précédentes et l'invitent à envisager une mutation ou à accepter un poste rattaché à la direction générale sans encadrement. Elle quitte les locaux en début d'après-midi avant d'être placée en maladie pour troubles de l'adaptation et burn-out. Le 1er avril, son médecin traitant certifie qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel que la femme rattache à un état de choc après avoir appris l'éviction de ses fonctions de responsable, accompagné d'un sentiment de tristesse et de dévalorisation personnelle et professionnelle. Le fonctionnaire en activité bénéficie d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, CITIS, si son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle. Il conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à sa reprise ou sa mise à la retraite, son absence étant assimilée à du service effectif selon l'article 21 bis de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983. Pour mémoire, la loi présume imputable l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans ou à l'occasion des fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de circonstances particulières l'en détachant. Le cadre connaissait les difficultés de son service et savait que ses agents avaient été reçus pour des entretiens individuels à leur demande en raison d'une souffrance dont certains la rendaient responsable. Si lors de l'entretien, le président l'informe du retrait de ses fonctions pour des raisons tenant à ses qualités professionnelles et même si elle n'a aucun état dépressif antérieur, il n'y a pas de lien de causalité directe et certain entre son état de santé et l'entretien qui s'est déroulé dans des conditions normales et constitue un événement prévisible dans la carrière d'un agent. C'est donc logiquement qu'il a refusé de reconnaître une imputabilité et le tribunal ne pouvait pas se fonder sur son contenu et sa concomitance avec l'apparition de symptômes dépressifs pour considérer l'entretien comme constitutif d'un accident de service. Attention, reste l'obligation de la motivation d'une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales. Elle doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, suivant l'article L211-2 et 5 du Code des relations entre le public et l'administration. Or, si le refus du 22 mai mentionne les éléments de droit concernant la saisine de la commission de réforme et la répartition des votes, il indique simplement que la commission n'a pas été favorable à la demande d'imputabilité sans joindre l'avis ni le reproduire, lequel n'est d'ailleurs pas motivé. L'arrêté ne permet donc pas à la femme de comprendre les raisons du refus qui lui a été opposé. Faute de motivation correcte, la décision devait bien être annulée. Merci pour votre écoute, à très bientôt sur le blog NoRH.com.